Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio PFM 99.9 pour l'Actuality, l'émission de débat entre lycéens. Et avant de commencer, voici une musique qui devrait vous indiquer notre sujet de la semaine. Ça y est, le décompte est lancé, le dépôt des listes est terminé. 33 mouvements et partis se présentent pour devenir députés européens et ils ont jusqu'au 26 mai pour convaincre les Français, pardon, et nous, on en débat pendant 30 minutes avec l'Actuality Team sur Radio PFM 99.9. Et aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas seul. Je suis entouré de Chloé. Bonjour Chloé.
Bonjour.
D'Arthur.
Bonjour.
Et de Julie à la régie.
Bonjour.
Donc nous allons parler des européennes et je laisse le soin à Arthur, celui qui décrypte mieux l'actualité que personne, de nous présenter le sujet.
Alors, merci Thibaut. Donc pas moins de 33 listes se partageront les suffrages des électeurs lors des élections européennes. On disait pourtant les Français lassés, dégoûtés par l'engagement politique. Comment expliquer ce paradoxe ? 33 listes aux européennes, un record, ça n'était jamais arrivé avec ce mode de scrutin. La comparaison est plus difficile avec les européennes de 2014 où la France était découpée en 8 grandes circonscriptions. 33 partis, c'est aussi bien plus que lors de la dernière présidentielle où il n'y avait que 11 candidats. L'éventail est large. Le 26 mai prochain, vous pourrez voter bien sûr pour les grands partis, En Marche, RN, LR, France Insoumise, etc. Mais aussi pour un kyriel de listes plus thématiques, le Parti Pirate, Urgence Écologie, l'Alliance Royaliste, des listes pro-gilets jaunes, fédéralistes ou anti-grand remplacement, je cite, et même pour le Parti Animaliste. Il y a donc foule, profusion sur fond de confusion. En effet, on peut citer la liste Renaissance Européenne d'En Marche, qui a sorti son programme seulement hier, jeudi 9 mai, à moins d'un mois des élections. Voilà ce que l'on pouvait dire succinctement sur les élections européennes. Je laisse maintenant place au débat.
Très bien, merci beaucoup Arthur pour ces précisions concernant les européennes. Tu nous as parlé dans ton introduction de ce paradoxe. 33 listes européennes, les Français ne se sentent plus représentés. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe, cher chroniqueur ? Pourquoi ce paradoxe ?
Alors pourquoi ils ne se sentent plus représentés ? Parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans les propositions de nos politiques actuellement. Et Monsieur Macron, par son intervention suite au grand débat, a voulu répondre à cela aussi avec la décentralisation des fonctionnaires qui sont sur Paris pour les amener plus proches d'une réalité de terrain. Et puis il a voulu aussi rendre la légitimité des élus territoriaux, donc notamment les maires, pour qu'il y ait une plus grande proximité avec la population et vraiment avoir des propositions qui soient vraiment en corrélation avec la réalité de terrain.
Les Français vont retourner dans les urnes avec cela, Chloé ?
Oui. Tu peux... Avec quoi ? Je suis perdue, hein. J'ai essayé de remettre mon micro et du coup je suis complètement...
Avec ce qu'a dit Arthur, les Français vont-ils pouvoir retourner dans les urnes avec ces mesures de décentralisation qu'a annoncé le chef de l'État Emmanuel Macron lors de sa conclusion au grand débat le jeudi 25 avril.
Je suis pas sûre que ça change grand-chose. Enfin, je pense que le taux d'abstention il sera un peu pareil. L'Europe, ça paraît énormément, enfin ça paraît très loin pour la majorité des Français parce que en fait ils en voient. Enfin, ils n'en voient pas l'impact. Je pense que les trois quarts savent qu'il y a un impact de l'Union européenne sur la France, mais ils ne le voient pas. Et du coup, alors peut-être que maintenant un peu plus, parce qu'on a mis ce sujet en débat et on a entendu beaucoup de gilets jaunes dire que c'était la faute des traités libéraux de l'Europe et tout ça. Mais c'est très nouveau tout ça. On n'en parlait pas avant. Tout ce qui se passait dans l'Union européenne... Ça concernait pas grand monde, ils n'avaient pas l'impression d'être atteints par l'Union européenne. Alors est-ce que je pense que peut-être que le fait qu'on ait mis ce sujet au débat change un petit peu le taux d'abstention, mais encore, et encore, comme il y en a énormément de jeunes qui appellent aussi à pas voter, donc c'est compliqué. Il y en a qui appellent à pas voter et d'autres qui appellent à voter tout sauf Macron, mais pas de mini-liste pour pas que Macron passe quand même, donc c'est un peu compliqué. Je pense que le taux d'abstention restera quand même au minimum à 40%.
D'accord. Est-ce que justement, toi, cet intérêt pour l'Europe, tu le vois, Chloé ?
Oui, mais parce que on se renseigne, mais le problème c'est qu'il faut aussi penser que tout le monde se renseigne pas à tout ce qui est quartier populaire, retraité, etc. Je pense qu'ils y sont plus intéressés par tout ça. Et puis en fait, ils ont tellement l'impression de voir qu'il y a, enfin, ils ont l'impression qu'il y a que des corrompus. Donc en fait, ils ont fini par tout le monde en a marre de la politique. Et donc du coup, bah évidemment, ils font plus attention à tout ce qui se passe là-bas. Et donc en fait, il reste qu'en fait les convaincus qui font attention. Mais sauf que prêcher des convaincus, ça sert à rien. Donc on reste toujours avec les mêmes catégories de personnes qui ne veulent plus de la politique et qui donc, en voulant plus, ne s'y intéressent plus et ne connaissent pas l'impact...
L'impact de qu'a l'Europe. Ouais. Très bien. Arthur, t'en penses quoi, toi, justement ?
T'as bien résumé. Je suis assez d'accord avec toi que les gens ne s'y intéressent plus parce que, en ayant un peu de recul, même au niveau des programmes scolaires, c'est pas énormément évoqué on n'a pas le détail, donc on ne comprend pas franchement le fonctionnement de cette institution qui pourtant est très importante puisqu'elle est même... on dépend littéralement, nous, au niveau de notre politique même financière, budgétaire, de leurs décisions.
Bien sûr, leurs décisions sont... Enfin, on a sur nos... Si, je ne sais pas si on fera une catégorie de lois, du nombre de lois qu'on aurait, mais les trois quarts sont dirigés par l'Union européenne. Sauf que personne ne le sait, parce qu'à partir du... En fait, c'est un cercle vicieux. Ils n'aiment plus, donc ils ne s'intéressent plus. Et donc forcément, bah, quand tu t'intéresses plus, tu ne risques pas d'aimer et tu ne risques pas de comprendre. Et donc,
qui n'aime pas, j'ai pas suivi là.
Les gens qui n'aiment plus la politique parce qu'ils
n'aiment plus, d'accord.
Pas qui n'aiment plus. On n'a jamais vraiment aimé la politique. C'est pas un truc où on kiffe à la base, mais je veux dire qui. Enfin, ça dépend forcément. Si tu veux travailler dedans, oui, évidemment.
Non, pas forcément travailler dedans.
Oui,
c'est être actif.
Oui,
dans
être intéressé. Mais il y a une différence entre être intéressé et aimer. Je pense que être intéressé, c'est différent d'aimer. Je pense qu'il y en a plein qui sont intéressés et qui sont pas pour, qui n'aiment pas la politique. C'est pas leur truc, voilà, ils s'éclatent pas, ils se réveillent pas le matin, tiens, aujourd'hui je vais faire la politique. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment...
Alors, qu'est-ce que tu appelles faire de la politique ?
Alors oui, je suis d'accord avec le fait que la politique, c'est la vie de la cité. Mais ça, c'est notre point de vue à nous. Mais les trois quarts, on l'entend énormément aux Gilets jaunes, où là, c'est le reflet de la population. Enfin, la population...
Le reflet de la population...
Du peuple, on va dire.
J'aime pas le mot peuple, ça généralise, enfin, et on dirait la masse noire, un culte.
Mais non,
c'est...
non, pas du tout. Mais plus dans ça, le sens. Les gens lambda.
Peut-être Thibaut, tu l'auras remarqué, mais jamais j'utilise le mot peuple, parce que j'aime pas du tout. Moi, je préfère population et puis catégoriser.
Voilà. Mais les gens lambda qui travaillent pas dedans et qui forcément ils s'y intéressent seulement s'ils regardent. Le problème, c'est qu'avec nos médias, des gens vont pas aller très loin. Et puis, comme en fait, ils ont l'impression que c'est mauvais. Ils associent tout de suite la politique à mauvais. Pas c'est intéressant parce que c'est notre vie. C'est la vie de la cité, donc c'est tout. C'est les petits trucs, autres trucs. Il y a un échelon qui est énorme. Et donc, comme direct, ils associent la politique au mauvais, sérieux, qui prend la tête, qui est chiant, et tout ça, bah, automatiquement, quand t'aimes pas, tu vas pas t'intéresser. Et c'est ça qui est bête aussi, parce que du coup, ils ont des œillères, et comme ils s'intéressent pas, bah, ils savent pas. Et quand tu sais pas, évidemment, tu peux te faire manipuler, mais soit tu votes pas, parce que tu sais pas pour qui voter, parce que tu comprends rien, et c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment, ils votent plus parce qu'ils comprennent rien, et qu'ils veulent même pas, ça les intéresse plus, donc ils disent, on va pas voter. Ou, ils suivent un peu, ils votent un peu de ce qu'ils entendent aux médias, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que Macron a gagné, parce que... Le vote utile. Voilà, c'est ça. Et je pense que là, si... En fait, c'est facile à comprendre, hein. C'est 22% qui fait là maintenant, c'est ses militants, c'est son cercle, c'est ses votants. Mais les autres, en fait, ceux qui ne veulent pas de Macron, ils votent pas. Donc il est là le problème. C'est que, en gros, t'as
les... ceux qui veulent pas de Macron, ils votent et ils
oui,
votent...
Mais...
toi, Arthur, dans ces cas-là.
Ceux qui ne veulent... Qui ne
oui, mais il y en a pas assez.
Qui ne veulent plus de Macron, ils vont aller voter, par exemple, pour Madame Le Pen, avec le RN.
Voilà. Hein. Oui, non, mais ça,
Jordan
oui.
Bardella,
mais
sa tête de liste.
On va mettre un peu un moite-moite. On va dire qu'il y a 50%. Même plus, je pense, l'inverse. On va dire, allez, pour être gentil, 50% des gens qui ne veulent plus de Macron, qui vont aller voter pour les autres listes, et en ce moment particulièrement pour le RN, et les autres 50%, et moi je suis même sûre que c'est plus de 50%, mais après je connais pas les chiffres, qui ne veulent plus de Macron ne votent pas tout court. Et il est là le problème. C'est pour ça qu'ils font des aussi gros chiffres.
Et pourquoi ils ne votent pas ?
Bah parce qu'ils sont plus intéressés par la politique et qu'ils pensent que c'est tous des corrompus. Moi, c'est ce que j'entends autour de moi.
Oui. Et justement, est-ce que, donc vous nous l'avez abordé tous les deux... Vas-y, Arthur.
C'est donc pourquoi ils ne... Donc tu disais, il y en a qui ne votent pas et il y en a qui votent contre pour pouvoir ne pas me laisser accéder. Mais dans ces personnes qui ne votent pas, c'est parce qu'ils sont dégoûté de tout, c'est la peste ou le choléra. Et j'évoquais ça avec un ami. Moi, je vois des similitudes avec l'élection américaine entre Clinton et oui. Trump. C'est la peste ou le choléra.
Ce qui était un peu pareil avec Macron et Le Pen au présidentiel. Mmh.
Parce qu'après, on disait hein, 33 partis, donc avec des plus petites listes, mais qui ne sont, à mon sens, pas en mesure de représenter correctement, même si leurs propositions, des fois, sont intéressantes.
Hein. Donc, justement, est-ce que c'est un côté un peu indécent, le fait que les Français ne se sentent plus représentés, et malgré ça, il y a quand même 33 listes, ouais. Pardon, qui veulent prétendre à une place de député européen. Est-ce que ça n'a pas un côté indécent, selon vous?
C'est vrai que ça peut paraître bordélique pour les personnes. Après, il faut penser que l'avantage des européennes, c'est que c'est pas comme une présidentielle. Présidentielle, oui. À une personne. Les européennes, il y en a plusieurs. Donc, ça me choque moins qu'il y ait autant. Et on parle toujours de la France, mais en Allemagne, il y a environ 60 listes. Hein. Donc,
oui, voilà, c'est ça.
Donc, 33 listes.
Moi, je trouve ça choquant. 33 ouais. listes.
Mais après.
Ça montre quand même à quel point la France est divisée.
Oui. Oui.
C'est très représentatif quand même.
Il est vrai.
Très bien. Et justement, on va recentrer un peu le débat sur les élections européennes. Est-ce que vous, ces élections, vous intéressent?
Petit blanc. Oui, quand même, parce qu'on en parle. Donc, voilà, ce genre de questions, je réponds toujours ça. Mais non,
vous
mais tu fais bien de poser la question.
Au débat, oui. C'est normal.
Moi, je suis intéressé, oui, parce que là, c'est la vie de la cité. Donc, c'est un droit en France, donc, comme dans toutes les démocraties, d'être actif, de participer, et puis d'être acteur de cette cité, de mmh. faire des choix, de ne pas subir, justement.
D'accord. Quant à toi, Chloé, est-ce que ça t'intéresse, les européennes ?
Oui, ça m'intéresse, mais je reste quand même sur l'optique que, en effet, on y comprend quand même moins à l'Union européenne qu'au présidentiel. Donc, oui, je suis intéressée, mais j'avoue complètement que je suis moins calée sur le sujet européen que sur le sujet français. Et c'est ça qui n'est pas normal. Et c'est pour ça. Et j'en parlais dans un meeting, par lequel on s'en fout, mais en meeting, et on disait, avec la FI, on s'en fout, bref, j'étais en meeting avec la FI, et on parlait avec la tête de liste Adrien Quatennens, si je prononce bien.
Quatennens.
Et on se rendait compte, en fait, que si les gens sont plus intéressés, c'est bien justement parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et déjà, franchement, on va demander à un lycéen s'il s'y connaît sur l'Union européenne. Il va dire « Ouais, je connais le nom, c'est déjà ça. » Mais nous, c'est parce qu'en tant que gens, on a envie de s'intéresser. Mais c'est parce qu'on a eu cette envie. Mais si
c'est venu de nous-mêmes.
C'est venu de nous-mêmes. Mais si on ne cherchait pas à aller plus loin, et si on n'invitait pas aussi notre entourage, des fois, à aller plus loin, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on essaye tant bien que mal de faire, on en parle à nos amis et tout ça, et ce qui fait qu'eux, parfois, aussi s'intéressent. Mais si on ne cherche pas nous-mêmes, on ne le sait pas. On en parle à peine. Mais rien qu'on voit, rien que nos cours d'éducation civique, les trois quarts du temps, ils sont remplacés par des cours, parce qu'on a d'autres cours, donc l'histoire, forcément, parce que c'est fait avec notre prof d'histoire, qui remplace soit par un cours d'histoire, soit par un cours de géo, parce qu'il n'a pas le temps de finir son programme. Nos cours de MC sautent toujours. Et ça, c'est pas normal.
Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission de l'Actuality Team sur les unions européennes, sur les élections européennes, pardon, après une petite coupure musicale. À tout de suite.
And the father is a son who has a mother. The mother has a daughter who gets married to the brother of a mother. And they're all just trying to multiply with one another. Cause that's just the way of the world. It never ends till the end, then you start again. That's just the way of the world. That's just the way of the world. Someone in the world, they think they're working for themselves. They get up them, and so they think they got it made, but they're all just working to get paid the very same. And so they keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dum. They're gonna keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dum. And so they keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dum. Twiddling them thumbs, skillety-dick-dum-dum.
And so they keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dee-dum, skiddly-dee-dee-dum. They're gonna keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dee-dum, dum.
Bonjour tout le monde, on est toujours ensemble pendant encore 15 minutes pour la deuxième partie de l'émission sur les élections européennes. Je suis toujours en compagnie de Chloé,
salut,
d'Arthur et de Julie à la régie. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle notamment de l'Angleterre qui va quitter le
Brexit.
L'Europe. Voilà, le Brexit, exactement. Est-ce que vous aimeriez la même chose pour un Frexit ?
Absolument pas, ça me paraît
absolument
un peu
pas.
Trop bordélique. Je vois pas comment on pourrait faire ça correctement. Et je suis pas sûre que l'Union Européenne apporte que du mauvais. Tout à l'heure, quand je parlais d'impact, je pense que c'était à la fois positif et négatif, parce qu'elle finance aussi des projets. Mais je pense que c'est les gens qui sont là-bas qu'il faut changer. Après, je suis pas sûre que si on est, selon moi, des bons députés européens français là-bas, ça change des masses, parce que on a quand même beaucoup de pays d'extrême droite qui sont montés
au pouvoir en Italie,
au pouvoir
notamment,
dans l'Union européenne, voilà. Et c'est ce que je voulais dire, en gros, c'est j'espère, mais je suis pas certaine que même si les députés européens français sont bons toujours, selon moi, ça change grand-chose, puisque ils restent libéraux. Enfin, après, ça part toujours du principe où être libéraux ou anti-libéraux, être libéral ou anti-libéral, évidemment, ouais. Mais mettons-nous du point de vue des anti-libéraux, il y a toujours des libéraux dans l'Union européenne, même si les Français ne le seraient plus. C'est dans ce sens-là que je veux dire.
Mes généraux, mes amiraux.
Arthur,
bon, on a du beau monde hein, quand même au Conseil européen. Beaucoup de gens qui sont vieux, au même titre qu'en France. Beaucoup
surtout
de gens qui sont bien installés. Qui ont une gestion de carrière dès le début pour faire en sorte qu'ils ne soient pas évacués. Hein, parce qu'il faut comprendre aussi, hein, quand on est politique dans la vie démocratique, on est susceptible d'avoir notre statut qui saute du jour au lendemain en fonction des élections. Donc certes, il faut comprendre ça. Donc je pense que déjà là, il y a un travail à faire sur la gestion des carrières. Pour une fois le mandat terminé et s'il n'est pas renouvelé, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est ça la réelle crainte. C'est des hommes, des femmes qui ont une famille, qui ont besoin d'un salaire, et donc il y a une certaine précarité. Donc ça, c'est déjà une problématique. Ensuite, je disais, il y a du beau monde bien installé. On les laisse, donc c'est ça le problème. Et il faudrait les renouveler ou les laisser, mais le problème, c'est que plus ils ont tendance à rester, moins ils ont tendance à avoir un réel engagement dans la vie démocratique. C'est-à-dire qu'ils sont bien installés, donc ils ne voient pas l'intérêt de se démener, alors que quand on entre en politique, les plus jeunes, ils ont de réels engagements, des convictions, ils ont vraiment envie de se battre, hein, ils ont de réels combats pour certaines mesures, certaines choses. Donc oui, c'est ça le problème, hein, c'est tous ces gens qui sont là, bien lotis depuis trop longtemps et qui devraient être renouvelés ou les inciter à se lancer dans une nouvelle dynamique.
Ouais. Surtout que je pense que c'est des gens qui ont déjà une carrière telle, enfin ils ont un diplôme et ils n'auraient pas du mal à retrouver
un poste.
Poste. Donc oui, les renouveler, enfin, pourquoi tout simplement pas les élire? Je comprends pas pourquoi ils sont non élus déjà dans un premier temps, c'est très loin d'être démocratique.
Ça, c'est le fonctionnement de l'Union Européenne.
Et l'Union Européenne, c'est un problème, voilà, effectivement.
C'est un problème déjà.
Je vais faire un lien avec, j'ai vu ça aux infos hier, nos amis Monsanto, qui nous ont fait une belle liste de représentants politiques fichés. Avec des journalistes, ouais, beaucoup de personnes à influence médiatique, hein, forcément, avec à éduquer ou à envoyer des outils pédagogiques pour faire changer d'avis. Et donc, pour en revenir à l'Union européenne, on a justement, par ce système, beaucoup de gens qui sont placés par ces firmes dans leur intérêt. Et donc, justement... Parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'Union européenne, c'est le grade au-dessus à l'échelle des pays. Et donc, du coup, il y a un réel enjeu pour les entreprises de placer des gens en faveur de leurs objectifs. Donc, Monsanto, on parle beaucoup du glyphosate. Ouais. Et donc, oui, c'est ça le problème. C'est vrai que même au niveau de l'organisation de l'Union européenne, le fait que les gens ne soient pas élus, que ce soit des listes comme ça... Bon, après, déjà là, on a de grosses difficultés à élire une liste, alors s'il fallait élire des personnes...
Ouais, mais ça n'en reste pas moins pas démocratique du tout, et je pense qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Enfin, ça me paraît logique, surtout qu'en plus, rien que le président du Conseil de l'Union européenne a travaillé dans des entreprises largement à polémique. Je ne peux pas te dire, je ne sais plus le nom, mais je sais que c'est un peu le même style que Monsanto. Donc quand tu vois que le gars, il est déjà ultra-libéral, qui fait ultra-polémique parce qu'il laisse passer des lois...
Après, on ne peut pas mettre n'importe qui non plus.
Bien sûr.
À ses postes, donc bon.
Mais bon, si au poste tu mets un gars, bah du coup prenons l'exemple de Monsanto qui a travaillé à Monsanto avant, tu te doutes bien qu'il va défendre les intérêts des lobbies. Oui. Et donc évidemment, ça peut pas fonctionner quand tu vois que c'est eux qui décident de tout. Si c'est un gars qui ne pense qu'au fric et qui décide de tout, bah évidemment tous ceux qui sont en bas peuvent rien faire.
Et justement, est-ce que vous dénoncez cette pression des lobbies? Plusieurs candidats en parlent. Est-ce que vous aussi vous la dénoncez ou pas, cette pression des lobbies qui...
Cette pression, bah oui, il faut la dénoncer. Enfin, cette pression, c'est difficile de la dénoncer aussi, hein, parce que c'est vachement caché. Hein, là, c'est parce qu'il y a une fuite informatique qu'ils ont réussi, dans le cas de Monsanto, à obtenir ces documents. Donc dénoncer, bah oui, on dénonce, mais comme c'est caché, bah au-delà de dénoncer, c'est difficile de sanctionner et puis de réprimander.
C'est ça, mais après, on a eu l'affaire avec Assange, mais je ne sais plus le nom du...
Julien Assange.
Assange, c'est le gars c'est le lanceur d'alerte
WikiLeaks.
Ou c'est le... Hein ?
Julien Assange, c'était WikiLeaks. C'est celui qui a révélé de nombreux scandales. WikiLeaks qui était réfugié, qui s'est fait arrêter.
Oui, donc c'est le lanceur d'alerte.
Oui, si tu veux.
Voilà. Ok, donc voilà, l'affaire d'Assange où le gars a enfin dénoncé et finalement ça a été au risque de sa... Pas de sa vie, parce qu'il n'est pas mort, mais au risque de sa liberté.
Oui, voilà, sa liberté.
Donc en fait, finalement, oui, on dénonce par la parole, dans le sens où on dit voilà, c'est pas normal. Mais en effet, alors sanctionner, déjà, ça se fait pas. Et en plus, quand on sanctionne la personne qui dénonce, enfin, il y a un moment donné où ça donne pas envie de dénoncer. Parce que tu te dis, si c'est pour finir en prison, bof, quoi. Donc on a aussi ce problème de pression judiciaire sur les lanceurs d'alerte.
Très bien. L'écologie est aussi un autre grand sujet de ces élections européennes. La plupart des partis en France, pour ainsi dire la totalité, la quasi-totalité peut-être, ont mis l'écologie au centre de leurs priorités. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'écologie? Est-ce qu'une fois élus, ces partis vont tenir leurs engagements, vous pensez? Ou pas?
Grande question.
Est-ce que le fait de parler d'écologie sur tous les plans, alors que c'était un sujet qui était plutôt réservé, entre guillemets, à Europe Écologie les Verts, pardon, est-ce que c'est une bonne chose ou pas?
C'est toujours difficile de prédire l'avenir comme ça, mais si on se réfère un petit peu à l'historique... aux dernières élections européennes, je pense pas qu'il y avait un engagement écologique tel, puisque c'était pas vraiment dans les préoccupations contemporaines. Enfin, on n'était pas encore à l'époque mis devant le fait accompli du réchauffement climatique et tous ces éléments.
Oui, oui.
Mais au vu des éléments historiques, donc la liste Europe Écologie Les Verts, quand on les voit, ils ont beaucoup de mal à se faire une place parce que ça revient au lobby, tout ça. Donc, bon. Alors tenir leurs engagements, oui, c'est des beaux engagements, mais bon, il faut qu'il y ait une synergie de groupe, il faut que tout le monde y aille. Et...
Bien sûr, c'est bien que ce sujet soit mis au centre des programmes, mais est-ce que pour autant ça va être Mais leur engagement va être tenu, je sais pas. Est-ce que c'est possible aussi?
Mais alors justement, est-ce qu'avec
lobbies, voilà,
cette synergie de groupe, comme l'a dit Arthur, tous les partis en parlent, s'ils tiennent tous leur engagement, est-ce que ce sera possible?
J'ai vu, petite info, on est quel jour? On est vendredi. Ah bah alors, hier jeudi, on est passé au point de non-retour en Europe, au niveau de la consommation.
Sachant qu'en
ressources.
Août, on était déjà passé en France, au point de non-retour. Donc là, on se retrouve en Europe où, en gros, bah, pour ne pas avoir de dette envers l'environnement, il faudrait arrêter de consommer. Tout court. Sauf
difficile.
Ce qui est même impossible.
Impossible.
À moins que tu veuilles que tout le monde crève, c'est pas possible. Donc, mais est-ce qu'on revient pareil avec la dette française, hein? Je veux dire, la dette française fait qu'en fait, si tu veux la rembourser, faut pas. C'est une dette d'un an. Donc tu ne dépenses rien pendant un an. Donc c'est ce qui est pareil impossible. Donc,
problème du système économique actuel à remettre en question. Mais c'est dur. Hein. Trouver une alternative. Qui aille à tout le monde. Hein.
C'est ça, donc là on se retrouve avec oui, l'écologie est au centre des débats, mais est-ce que c'est possible de changer les choses malgré les lobbies? Il est là le problème. C'est la disparition de ces gens qui mettent pression qui fait que les partis pourraient tenir leurs promesses.
Bon, après moi ça m'amuse aussi quand même. Hein. Les partis qui parlent d'écologie, qui mettent ça au centre de leur programme.
Bah tous, hein, de toute façon.
Tous, la quasi-totalité. Hein,
là, ils ont tous
Leur programme, il est fondé sur quoi? Bah, majoritairement sur la volonté d'instaurer des actions citoyennes. Sauf que avant d'instaurer ce genre d'action, il faudrait peut-être quand même commencer par éduquer, justement, pour reprendre le terme de Monsanto, nos firmes transnationales qui polluent énormément.
Mais évidemment, mais le problème, c'est
parce que bon, le petit citoyen pollue moins que ces firmes, bien sûr.
Évidemment, non, mais de toute façon, ils nous font toujours essayer de culpabiliser en nous disant oui, bah si les Français étaient moins sales, mais c'est pas les actions individualistes qui vont changer. Évidemment que ça sera mieux, mais je veux dire, le réchauffement climatique, il va pas s'arrêter parce que tu jettes plus les déchets à terre, que tu utilises moins d'eau et que tu utilises plus ta voiture.
Après, je pense que c'est une action qui doit être duale dans le sens où il doit y avoir une prise de décision au niveau des fonctions régaliennes, donc c'est pour l'Europe, hein, donc une prise de décision ferme, et je pense, donc on en avait déjà parlé la dernière fois quand tu étais venu, je pense que ça passe aussi quand même par des actions individuelles, parce que ces actions individuelles vont pousser au final à faire réfléchir sur le mode de fonctionnement et de production des entreprises, qui vont elles-mêmes s'adapter à la réalité du marché, qui sera donc modifiée. Et donc je pense que c'est ces deux aspects qui doivent contribuer à ce changement.
C'est un problème de consommation aussi, c'est ça le truc. C'est que je pense que si on arrêtait de surconsommer, ils ne surproduiraient pas. Parce qu'à partir du moment où tu ne consommes pas autant, tu ne vas pas consommer 50% et eux en produire 80%. Ce serait débile, ils perdraient de l'argent. Donc je pense aussi que bien évidemment, je pense que c'est aux consommateurs de montrer l'exemple parce que, effectivement, s'ils consomment moins, ils ne produiront moins, mais il n'empêche que nos actions individualistes ne peuvent pas marcher toutes seules.
Et le fait que ça se passe par l'Union Européenne, c'est une bonne chose ou c'est plutôt au niveau mondial?
C'est un premier pas.
C'est un premier pas?
C'est un premier pas qui est important quand même, parce que nous, la France, on ne fera rien tout seul, évidemment. Hein, on pourrait passer à du zéro déchet, zéro pollution, que ça ne changerait pas. On changerait, mais ça ne suffirait pas. Donc oui, ça devrait
être mondial. Après, on est en plein dans la mondialisation, l'interdépendance des régions du monde, bon, je ne sais pas ces concepts.
Le cours de géographie.
Voilà, cours de géographie. Et donc, l'Europe, on ne va pas dire qu'on ne produit pas grand-chose, mais on importe énormément, notamment Chine, d'Inde, tout ça. Là. Et donc tous ces pays dépendent de notre demande. Donc offre-demande, hein, la cour d'économie pour le coup. Et donc si on arrête cette demande, et justement c'est pour en revenir à ta question de est-ce que ça doit être une action mondiale ou européenne. Si nous on arrête, ça impactera forcément le monde. Puisque, je ne veux pas stigmatiser de nouveau, mais les petits Chinois qui nous produisent tous nos téléphones, voilà, enfin tous ces produits, eux ils ne consomment pas énormément.
Non.
Et donc,
ils n'ont pas les moyens déjà dans un premier
temps. Donc ça soulève une autre problématique aussi, hein, c'est que si on arrête de consommer, ils vont vivre de quoi?
D'accord, j'aimerais poser une dernière question. Est-ce que, du fait de l'urgence climatique, ces élections européennes sont certainement peut-être les plus importantes qu'on ait jamais eues depuis 1979 et les premières élections européennes, du fait de cette urgence écologique? Alors, je vous sens un peu... perplexe.
Est-ce qu'elles sont plus importantes que les autres ? Je sais pas. Je pense que c'est toujours important de s'investir dans l'Union européenne. Mais oui, elles sont peut-être plus importantes parce que là, on vient à un point où on n'a plus le choix. Il faut faire quelque chose pour le climat. Après, elles viennent plus importantes à partir de quoi ? Parce que si c'est pour le peuple, je sais pas.
Bon, là, on a très largement débattu sur... le rôle de l'Union européenne pour contribuer, bon, voilà. Donc moi j'attends pas beaucoup de changements hein, par rapport à leur programme sur l'environnement. Je pense que en fait l'organisation de l'Union européenne elle est quand même assez ancienne. On a une composante centrale qui est ce Parlement européen, une deuxième composante avec les pays et c'est tout en fin de compte. Hein. Je crois qu'on a peut-être une composante économique sociale. Ça doit être une institution supplémentaire dans l'ensemble de l'Europe. Et donc, je pense qu'il faut vraiment créer une nouvelle institution dédiée aux questions écologiques et qui ait une influence supérieure quand même, parce que sinon, ça ne servira à rien, sur justement ces décisions qui sont prises par des technocrates, hein, quand même.
Hein, bien sûr.
Il faut les nommer. Et par des scientifiques qui connaissent la réalité et qui ont des propositions concrètes.
C'est ça, parce que le problème, c'est qu'on se retrouve toujours avec des technocrates, des bureaucrates qui sont toujours là, machin, oui, mais ils n'y connaissent rien. C'est-à-dire qu'ils sont doués en politique, mais tu ne vas pas leur demander d'être doués sur l'environnement. Et d'un côté, en soi, on ne leur reproche pas, puisque ce n'est pas leur métier. Mais je pense que...
On leur reproche dans le sens où ils sont entourés de spécialistes et ils ne prennent pas en compte leur analyse.
Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui n'est pas normal. C'est que c'est logique que ça soit les gens qui connaissent, que c'est leur métier. Ils sont scientifiques, ils savent le sujet. On a les moyens. On a largement les moyens de régler cette urgence climatique en France et en Union européenne.
Monsieur Louis s'est sauvé pour ça, hein, parce que...
On sait le faire, on a les techniques, les scientifiques savent le faire.
Entreprendre plus rapidement ces décisions.
Qui ne voulait pas s'accommoder des petits pas, très bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce débat sur les élections européennes. Rendez-vous donc le 26 mai pour connaître les résultats. Merci Chloé, Arthur et Julie à la régie.
Avec plaisir.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux débats. Au revoir.
Salut.